Bonsoir, Dialogue entre Congolais de ce jeudi 8 septembre 2022 revient sur la question de savoir s'il y a un embargo ou non sur les armes destinées à la RDC. Une certaine confusion est observée au sein de l'opinion congolaise qui pense que la dernière résolution du Conseil de sécurité 2641 impose des restrictions à la RDC de s'acheter les armes que le gouvernement congolais souhaite avoir. Selon la division des affaires politiques de la MONUSCO, la RDC n'est plus concernée par un quelconque embargo sur les armes, mais précise qu'elle est plutôt concernée par un régime de notification. Du côté congolais, le représentant de la RDC à l'ONU regrette que l'adoption de cette résolution intervienne en dépit de la demande du gouvernement congolais de retirer totalement ce dispositif de notification préalable, disposition vieille de plus de 14 ans, qu'il juge complètement obsolète. Quelle lecture faire de cette problématique? Nous en parlons ce soir avec Jean-Michel Dumont, il est officier des affaires politiques de la MONUSCO. Jean-Michel Dumont, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est diplômé d'études spécialisées en questions stratégiques et politiques de défense. Professeur Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Et Augustin Mouessi, professeur des sciences politiques à l'Université de Goma et Université catholique Graben de Butembo. Augustin Mouessi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes déjà très nombreux à réagir au terme de ce soir. Rémi Lokonga, depuis Kisangani dans la province de la Tchopo, à mon avis, le régime de notification préalable dont fait allusion la division des affaires politiques de la MONUSCO est une restriction qui empêche le Congo de se procurer des armes dont il a besoin pour défendre son intégrité territoriale, alors que ce dernier est un État souverain. Si la communauté internationale, principalement l'ONU, avait la volonté et le souci de voir la RDC stable, elle n'allait pas la soumettre à ce genre de restrictions en ce moment où cette dernière fait face à plusieurs mouvements rebelles et à la guerre d'agression du Rwanda par le M23. À Bunia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sur la 104.9. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Le régime d'embargo et des notifications sur les armes de l'ONU doit être aussi imposé aux États voisins qui soutiennent les groupes armés en RDC. C'est ce que préconise Trésor Maéché, professeur de droit international à l'Université catholique de Bukavu. Il a dit dans le cadre de notre série sur la résolution 2641 qui applique le régime de notification aux fournisseurs d'armes de la RDC. Résolution adoptée en juin 2022 par le Conseil de sécurité. Le professeur Maïché questionne la pertinence de cette résolution au micro de Cynthia Bachizi.
Si l'objectif était d'empêcher les groupes armés d'avoir accès aux armes, je pense que cette mesure ne les a pas affectés. C'est donc un échec. La raison est simple. En effet, aujourd'hui, il existe en RDC une pluralité, une multitude de groupes armés qui sont toujours actifs et qui s'approvisionnent en armes via les pays voisins, ailleurs qu'en RDC. Cet embargo ou ce régime de notification, je pense qu'elle devrait être pensé autrement. Pourquoi pas ne pas l'étendre à certains États voisins qui soutiennent les groupes armés en RDC. Ces derniers s'approvisionnent auprès de ces États et ils viennent commettre des massacres en RDC. Et en fin de compte, on a le droit de se demander si, in fine, la mesure n'a pas pour finalité d'affaiblir la RDC en renforçant d'autres pays voisins.
Pour sa part, le professeur Augustin Kainomouessi, enseignant des sciences politiques à l'Université de Goma et à l'Université catholique Graben de Butembo dans Kivu, pense que la RDC devra fournir plus d'efforts pour contrôler les mouvements des armes en interne et sanctionner les officiels qui seraient impliqués dans leurs transactions avec les groupes armés pour déstabiliser la région. En faisant ainsi, la RDC pourra convaincre davantage la communauté internationale afin d'obtenir la levée complète du régime de notification, ajoute-t-il. Le professeur Augustin Mouessi est joint par Grace Hamzati.
Il faut que la diplomatie congolaise s'active pour pouvoir convaincre la communauté internationale qu'elle a fait justement assez d'efforts et que dans un contexte que le gouvernement de la RDC qualifie carrément d'agression, il faut pouvoir justement mobiliser la communauté internationale pour l'amener à comprendre effectivement que la RDC devrait jouir de toute sa liberté, toute sa souveraineté en matière d'acquisition d'armes. Mais au-delà de cet effort qu'il faut mener sur le front diplomatique, il est important aussi que la RDC se montre suffisamment regardante, suffisamment responsable pour pouvoir effectivement contrôler sérieusement le mouvement d'armes en interne et faire des efforts en vue de pouvoir effectivement mener des enquêtes suffisantes et même pourquoi pas sanctionner certains officiels qui seraient impliqués, n'est-ce pas, dans la transaction d'armes avec des groupes armés. Je crois que c'est à ce prix-là que effectivement la situation, à mon avis, pourrait évoluer positivement.
Jean-Michel Dumont, vous êtes officier des affaires politiques de la MONUSCO. Une certaine confusion est observée au sein de l'opinion congolaise sur cette problématique d'embargo ou non sur les armes destinées à la RDC. Dites-nous en des termes clairs, simples et précis, y a-t-il oui ou non embargo sur les armes destinées à la RDC ?
Non, il n'y a pas d'embargo, il n'y a plus d'embargo depuis longtemps, depuis 14 ans, en fait, sur les livraisons d'armes à la RDC. Ce qui existe, comme cela a été dit dans l'introduction, très justement, c'est un système de notification. C'est en principe une obligation pour les fournisseurs d'armes, pas pour le gouvernement de la RDC qui n'a rien à faire là-dedans. C'est un, donc en principe, chaque pays qui fournit des armes à la RDC ou des munitions à la RDC devait, jusque récemment, en faire la déclaration au Conseil de sécurité, une déclaration qui est strictement confidentielle et à laquelle les États tiers n'ont pas accès.
Maintenant, mais une certaine opinion pense que ce régime de notification est une sorte d'embargo voilé.
C'est pas un embargo, puisque en fait la RDC peut commander absolument toutes les armes qu'elle veut, que ce soit des armes de petit calibre ou que ce soit des armes importantes, des avions de chasse, que sais-je encore. Non, la seule chose qui reste, c'est une obligation, donc comme je disais, de notification par les États tiers qui fournissent des armes à la RDC, et uniquement dorénavant pour les armes légères et de petit calibre, et également les systèmes portables de défense contre les chars et contre les appareils, les avions. Donc c'est vraiment très limité, et ce sont des types d'armes qu'on retrouve dans de très nombreux pays. Les AK-47, des RPG, c'est essentiellement ça qui est visé. Donc c'est pas des grands secrets militaires de savoir si tel ou tel pays se fournit dans ces armements. Ce sont des armements qui existent en quantité déjà dans ce pays comme dans beaucoup d'autres pays.
Alors comme je l'ai dit, il y a cette confusion qui observe au sein de l'opinion qui pense que la résolution 2641 impose des restrictions à la RDC de s'acheter les armes que le gouvernement congolais souhaite avoir. Que dit exactement cette résolution, Jean-Michel Dumont?
Comme je l'ai dit, je ne vais pas citer le texte. Parce
l'essentiel,
que...
oui, oui. L'essentiel de la résolution.
Donc, c'est une obligation de notification d'un certain type d'arme qui figure à l'annexe A de cette résolution que j'ai mentionnée. Mais donc, c'est une notification qui doit être faite par les pays fournisseurs. Il n'y a d'ailleurs pas de sanction si les pays fournisseurs ne fournissent pas ces renseignements au Conseil de sécurité. Mais
c'est une résolution qui n'est pas contraignante.
Elle n'est pas réellement contraignante en réalité. Il y a des fournisseurs importants de la RDC qui ne notifient pas ou qui ne notifient plus depuis plusieurs années.
Mais pourquoi vous avez reconduit...
C'est pas moi qui ai reconduit.
Je parle des Nations Unies.
Okay.
Pourquoi le Conseil de sécurité a reconduit cette résolution si elle n'est pas contraignante?
Bon, c'est qu'un certain nombre de pays sont prêts à la respecter. Et tous devraient le faire parce que certains pays qui sont concernés se trouvent au Conseil de sécurité et ont participé à l'adoption de cette résolution. C'est la diplomatie internationale qui est parfois un peu compliquée, je dirais.
5 pays s'étaient abstenus lors du vote et voulaient, comme Kinshasa, la suppression de toute notification d'acquisition d'armes. Brièvement, pouvez-vous nous dire, nous expliquer comment le vote de cette dernière résolution s'est déroulé?
Bon, donc effectivement, le vote de cette résolution est intervenu à l'issue d'un débat qui a lieu chaque année et qui concerne la situation en RDC. Donc, c'est pour ça que cette résolution concerne la RDC et uniquement la RDC. Il y a 15 membres au Conseil de sécurité, dont 5 membres permanents. Et 10 membres ont voté pour cette résolution. Donc, l'Inde, les Émirats Arabes Unis, j'ai pas la liste sous les yeux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Et par contre, 5 pays se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre. Aucun pays n'a voté contre cette résolution. Il faut être très clair là-dessus. 5 pays qui sont 3 pays africains frères, donc le Gabon, le Ghana et le Kenya, et d'autre part 2 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Chine et la Russie. Mais ces 2 pays n'ont pas voté contre. Si un seul de ces 2 pays avait voté contre, automatiquement il n'y aurait pas eu de résolution. Parce que c'est le vote de ces 2 pays ou d'un seul de ces pays au Conseil de sécurité d'office un droit de veto. Ça n'a pas été le cas.
Alors, puisque vous dites que la RDC peut acheter toutes sortes d'armes qu'elle veut et que les pays fournisseurs ne sont pas contraints à notifier le Conseil de sécurité, quelle est alors la pertinence de cette résolution, Monsieur Jean-Michel Dumont?
Bon, donc, en fait, il y a une obligation morale de le faire. Après, il n'y a pas de sanction. D'accord. La pertinence, c'est que les groupes armés, comme cela a été dit précédemment aussi, se retrouvent en possession d'armes dont on essaie de tracer l'origine. Alors, effectivement, certaines armes ont une source ou des sources qui sont endogènes, qui viennent de la RDC, et d'autres armes proviennent éventuellement de pays voisins. Il y a d'ailleurs un groupe d'experts qui travaille chaque année sur ces questions. Et c'est très important pour aider la RDC à en finir avec les groupes armés, de pouvoir connaître les sources de ces armes pour éventuellement essayer qu'elles se tarissent. Et je dois dire que ce n'est pas du tout la première fois que ce type de résolution est adopté. Il y a eu beaucoup de résolutions dans ce sens à l'égard de pas mal de pays, et pas seulement en Afrique, mais pour l'Afrique par exemple, la première résolution de ce type remonte à 1977 contre l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Cette résolution a été supprimée après 1994 lors de la fin de l'apartheid, mais il y a eu d'autres des résolutions similaires avec embargo sur les armes pour mettre un terme, et cela a été efficace, au conflit au Libéria, au conflit au Sierra Leone. Il y a eu un embargo également pendant quelques temps exactement du même type contre l'Érythrée, contre la Côte d'Ivoire, contre le Rwanda également. Il y en a eu un, c'était de... Alors là, il faudrait que je regarde dans mes notes. C'était de 1994 à 2008. Il y en a un qui est toujours en vigueur contre la Somalie, et contre les livraisons d'armes à l'égard de la Somalie, et également, actuellement toujours, les livraisons d'armes à la Libye. Alors, il y a d'autres pays qui ont été... un autre pays qui a été soumis à ce type d'embargo jusque récemment, c'était la République centrafricaine, mais cette année, ça a été également modifié pour devenir simplement une obligation, une demande de notification.
Alors Jean-Michel Dumont, comment vous répondez au professeur Trésor Maéché qui estime que c'est une façon de déstabiliser la RDC, sachant qu'elle est attaquée de part et d'autre par plusieurs groupes armés soutenus par certains pays voisins? Comment vous lui répondez?
À partir du moment où ça n'empêche pas la RDC d'acquérir des armes, je ne vois pas en quoi ça affaiblit la RDC.
Professeur Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, vous êtes député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Quelle lecture vous faites de cette problématique? Les Nations Unies disent qu'il n'y a pas d'embargo sur les armes destinées à la RDC. C'est plutôt un régime de notification, mais il y a cette confusion qui règne au sein de l'opinion congolaise, même parmi nos officiels. Certains continuent à penser que l'embargo sur les armes destinées à la RDC existe bel et bien.
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je salue donc tous les amis qui vont échanger avec nous sur cette question. Je crois qu'il faut d'abord rentrer dans le principe. Et je suis heureux que M. Dumont ait utilisé le mot « embargo » à plusieurs reprises. Dans le régime des sanctions prévu au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, et ces chapitres 7, plus particulièrement l'article 41 de la charte, prévoit, n'est-ce pas, large éventail des mesures coercitives impliquant l'emploi de ce qu'il a appelé l'embargo. Et cet embargo, on distingue plusieurs régimes, on parle de 30 ou 14, ça dépend, mais le régime dans lequel la République démocratique du Congo ne doit pas, il n'y a pas de confusion. Nous sommes dans un régime d'embargo qui se décline en termes de notification. Ce sont des mesures ciblées qui peuvent aller dans les embargos des armes, des interdictions de voyager, de restrictions financières et économiques. Pour être plus cohérent, notre régime dit des notifications est bien géré par un comité de sanctions. Et ce comité de sanctions comprend un groupe d'experts. Donc, sur le plan normatif, sur le plan du droit international, nous sommes dans un régime de sanctions, dans un régime d'embargo depuis 2008 avec cette résolution 2641 qui est bien sûr flexible. Ça, c'est ce qu'il faut affirmer. Et il n'y a pas de confusion là-dessus.
Mais lorsque maintenant, il dit que la RDC peut s'acheter toutes sortes d'armes qu'elle veut, cela ne signifie pas que le pays est sous embargo, professeur Jacques Joly. Le pays est libre de s'acheter des armes.
La souveraineté d'un État ne se négocie pas en pointillé. Nous sommes dans ces sanctions, semble s'expliquer par la situation sécuritaire à l'Est, la multiplicité de groupes armés. Mais le conflit qui est à l'Est, le professeur Alex l'a dit, c'est un conflit complexe qui implique l'ensemble des États. Et la République démocratique du Congo est victime des agressions de ces États. Et lorsqu'il dit qu'il y a eu 10 États qui ont voté pour et 5 États qui se sont abstenus, notamment les 3 A, c'est-à-dire le pays africain, le Ghana, le Kenya et le Gabon, ils l'ont bien dit que ces régimes-là ne permettaient pas à la RDC d'assumer la plénitude de sa souveraineté pour lutter contre les groupes armés. Et le représentant de la Chine est allé plus loin en citant même les déclarations de la représentante du secrétaire général des Nations Unies, où il a dit que le M23 avait une puissance de feu égale à un État. Alors, qui finance le M23? Ou le M23, ce sont les sublétifs de l'armée rwandaise. Pourquoi on peut imposer des sanctions ou des régimes dits de notification à un État victime et ne rien dire sur ceux qui sont impliqués? Ce fameux groupe d'experts a démontré que l'M23 est composé non seulement de soldats rwandais, mais on a donné le preuve de la participation des équipements et du matériel du Rwanda Defense Force au sein de cette affaire-là. Donc, il est important qu'on ait une lecture holistique si on veut, soi-disant, lutter contre la prolifération des armes ou le vagabondage, je dirais armé, par les groupes armés qui se ravitaireraient auprès du FARDC, c'est une option. Mais ceux qui sont ravitaillés par les États voisins, quelles sanctions vis-à-vis des États voisins? Parce que l'objectif, c'est de ne pas briser l'équilibre. Or, en nous imposant ces régimes de notification, même réduites à quelques armes de calibre de 14,5 ou de lance-roquettes ou de lance-grenades ou des armes anti-chars ou d'autres systèmes. Mais je ne comprends pas que les Nations Unies, dont des hélicoptères ont été abattus par ces gens des M23, ne puissent pas savoir qui arme ces gens-là. Ce ne sont pas des missiles ou des roquettes sorties des arsenaux congolais qui ont, n'est-ce pas, abattu ces hélicoptères. Donc, il est important qu'une analyse globale soit faite et que s'il doit y avoir des régimes de notification, ça doit s'appliquer à l'ensemble des États impliqués, notamment le Rwanda, voire l'Ouganda dans cette affaire, et non dire qu'il n'y a pas de sanctions. Non, nous sommes au chapitre 7 à l'article 44 et on parle bien des mesures restrictives ou coercitives qui s'appellent argot, mais qui se déclinent en termes de notification. Il faut être clair là-dessus.
Professeur Jacques Joly, il y a le professeur Augustin Mouessi d'ailleurs qui est avec nous dans ces débats, dans son intervention de tout à l'heure. Il a estimé que du côté de la RDC, on devrait fournir plus d'efforts pour contrôler les mouvements des armes en interne et sanctionner les officiels qui seraient impliqués dans leurs transactions avec les groupes armés pour déstabiliser la région. Ceci pourrait peut-être pousser les conseils de sécurité à annuler ou à mettre fin à ce régime de notification.
Et tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Nous connaissons les faiblesses logistiques dans les suivis, le contrôle, la surveillance des dépôts et autres. Mais ce n'est pas un problème spécifique au FARDC. Si nous avons un traité international sur la circulation des armes légères, c'est que le problème ne concerne pas la RDC seule. La question des armes légères et les circulations des armes, surtout dans nos pays africains, les kalachnikovs se vendent à quelques miettes de dollars ou s'échangent parfois contre de la nourriture. C'est vrai, il faut faire un effort là-dessus. Et ce n'était pas une question spécifique à la République démocratique du Congo. Et je crois que nous avons tous l'obligation, dans les cadres des différents accords et autres signés, pour permettre à l'RDC de monter en puissance et en capacité de contrôle, et non à fragiliser davantage la RDC avec un discours, et c'est surtout les discours qui diraient que oui, la RDC est faible, mais l'armée, les M23, ils sont ravitaillés par le Rwanda. C'est établi par le groupe des experts. Alors pourquoi on ne prend pas des mesures contre le Rwanda? C'est quand même étonnant ça.
Merci professeur Jacques Joly, on vous garde encore dans cette émission. Professeur Augustin Mouessi, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Goma et à l'université catholique Graben de Butembo. Votre analyse sur cette problématique?
Oui, bien merci. En fait, je pense que dans une perspective de compréhension des différentes réactions, on comprend que la plupart des Congolais, effectivement, dans un contexte d'agression, ils auraient bien voulu, effectivement, que la RDC soit débarrassée de ces régimes de notification. Mais en même temps, on comprend également qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication, n'est-ce pas, responsable quant à ce sujet, n'est-ce pas? Et il y a également, on peut souligner le fait qu'il n'y a pas assez de connaissances, peut-être qu'il y aurait une sorte d'ignorance sur effectivement les motivations de ces genres de régimes
Et justement, comme l'émission est pédagogique, elle permet effectivement d'élever cet équivoque. Mais de par ailleurs, par rapport aux raisons qui ont motivé effectivement ces régimes, c'est que il faut se dire effectivement que dans les contextes actuels, il y a beaucoup de groupes armés qui opèrent à l'est de la RDC et qui sécurisent effectivement la population et qui se retrouvent avec des armes légères, même lorsque parfois il y a des manifestations, on peut constater qu'il y a des personnes qui sortent avec des armes, on ne sait pas d'où elles ont eu ces armes-là. Et donc, lorsqu'on remonte à l'histoire, on a l'impression que depuis la guerre de l'Afdel, depuis l'entrée des réfugiés au Congo, il n'y a jamais eu une campagne sérieuse visant justement à récupérer des armes, et quand bien même on serait dans un état de siège qui permettrait en fait aux services de sécurité de pouvoir, n'est-ce pas, faire le contrôle pendant le jour, tout comme la nuit, pour essayer de les chercher des armes dans les maisons. Cela n'a pas été suffisamment fait, donc ça a été faiblement fait. C'est pour ça que, effectivement, il y a beaucoup d'armes qui circulent à l'est de la RDC, qui sont liées au fait que la RDC a connu beaucoup d'épisodes des groupes armés, et notamment avec ce qui s'était passé au Rwanda, l'entrée massive des réfugiés au Congo, mais également les différentes rébellions que la RDC a connues. Mais il ne faut pas oublier également que, c'est là où j'ai rejoint effectivement le prof de Bukavu, c'est que il y a beaucoup d'armes qui viennent effectivement des pays étrangers et dont le mouvement effectivement n'est pas contrôlé. Donc je dirais, j'ai comme l'impression qu'il n'y aurait pas une politique commune entre la RDC et ses voisins pour pouvoir effectivement contrôler les transactions d'armes. Et donc c'est lié à la porosité, des frontières. Mais un autre élément, c'est qu'effectivement, il y a un lien entre la circulation d'armes et l'exploitation des ressources naturelles qui sont à l'est de la RDC. Cela fait qu'effectivement, il y a de groupes internationaux et même des acteurs privés internationaux qui donneraient des armes aux groupes armés en échange, n'est-ce pas, avec des minéraux pour pouvoir s'enrichir. Et donc, mais aussi, on ne peut pas évacuer le fait que dans certains anciens rapports d'experts des Nations Unies sur les Congo, on a cité nommément quelques officiels congolais, et que ce soit des militaires ou des civils, des politiciens rectifieurs, qui effectivement collaborent avec des groupes armés. Et il n'est pas exclu que effectivement ces groupes, d'ailleurs je me rappelle, il y a une année à Beni, l'armée elle-même avait annoncé avoir effectivement mis la main sur certains officiers de l'armée congolaise, ainsi que certains agents de l'ICSN qui fournissaient des armes en fait aux ADF. Et donc ce sont toutes ces questions, à mon avis, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir davantage comprendre ce qui se passe dans la région.
Professeur, selon vous, y a-t-il embargo, oui ou non? Selon Jean-Michel Dumont, il n'y a pas embargo. Selon le professeur Njoli, il y a embargo qui se décline en termes de notifications. Et vous, pensez-vous que cet embargo existe, oui ou non?
Oui, en fait, je suis tenté de dire qu'il n'y aurait pas vraiment embargo, quoi. Mais il y aurait tout simplement un régime de notification qui concerne certains types d'armes, les armes légères. Et pour montrer qu'effectivement, et qu'il n'y a pas embargo, parce que la RDC peut payer toutes les armes, n'est-ce pas, qu'elle veut. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce sont les groupes armés, évidemment, qui pas naturellement et logiquement autorisé à pouvoir payer effectivement des armes, parce que on estime que ces groupes armés, effectivement, sont pas, n'ont pas qualité de pouvoir détenir les armes. Donc je crois que c'est là la compréhension que je suis en train de faire personnellement. La RDC n'est vraiment sous embargo, même si bien sûr que, comme le souhaite de nos Congolais, il aurait été souhaitable que, effectivement, même que ces régimes de notification, qui n'est pas du reste obligatoire, soient levés. Mais je crois que c'est là, effectivement, des contrats d'un certain nombre de préalables qui sont définis, n'est-ce pas, par effectivement les textes internationaux et lesquels, justement, permettront à la communauté internationale de pouvoir lever définitivement même ces régimes, n'est-ce pas, de déclaratifs. Mais il faut dire que...
Mais est-ce que vous pensez, professeur... Mais est-ce que vous pensez, professeur, que ce régime de notification pourrait aider à la traçabilité des armes qui circulent au sein des groupes armés dans la partie orientale du pays?
Bon, je crois que c'est juste un souhait, n'est-ce pas, de la communauté internationale ou une sorte de pression morale qu'elle exerce un peu sur la RDC pour l'amener à pouvoir prendre... des politiques responsables visant effectivement à remettre l'État congolais de ses faiblesses qui ne lui permettent pas de contrôler suffisamment ses frontières. Mais je suis d'avis que cette mesure ne serait pas suffisante parce que, comme je suis en train de démontrer, l'origine des armes qui circulent à l'est de la RDC ont des origines à fait diverses, même si, évidemment, au finish, il appartient à l'État congolais de pouvoir sortir de sa fragilité pour contrôler son territoire, contrôler ses frontières et punir en fait tous les complices, tous les responsables qui n'est-ce pas, seraient en train de collaborer avec des groupes armés en leur fournissant effectivement des armes. Donc je suis en train de dire qu'il s'agit d'un appel à plus de responsabilités de l'État congolais. Ils ont la résolution, effectivement, la résolution a évoqué certaines avancées, mais je crois que si ce régime a été maintenu, c'est pour pousser davantage la RDC à faire des progrès pour, effectivement, qu'elle mérite, n'est-ce pas, la confiance de la communauté internationale, même si, évidemment, il ne suffirait pas seulement à la RDC de fournir des efforts devraient être fournis aussi, effectivement, par des pays voisins, et je crois que les pays voisins à la RDC, ainsi que la RDC, peuvent mettre sur pied, effectivement, des politiques de collaboration qui pourraient leur permettre, effectivement, de bien gérer les frontières, mais également de contrôler, effectivement, la circulation d'armes qui, en fait, causent la désolation dans toute la sous-région.
Merci, professeur. On va prendre ces auditeurs qui sont nombreux à nous appeler sur notre standard. On va se rendre à Beni, dans la province du Nord Kivu, pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Jean-Michel Dumont.
Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. À mon avis, dire que la RDC n'est pas frappée de nouveau par l'embargo sur l'achat d'armes selon la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un peu comme... considérer son armée alors comme un autre groupe armé. Comment expliquer que cet embargo ne s'applique qu'aux groupes armés alors que les 1-23 achètent des armes? Comment expliquer qu'il y a la levée de l'embargo sans aucune notification de la part de l'ONU? Je pense que c'est parfait. Donc c'est un peu comme qui dirait que lorsque le président de la République lui-même dit dans un discours haut et fort, je cite, je vais tout faire pour obtenir la levée de l'embargo qui frappe la RDC depuis plus de 20 ans, on dirait qu'il cherche à obtenir la levée de cet embargo aux rebelles bien 23 qui achètent des armes sous le silence complice de la communauté internationale. Et si cet embargo ne concerne pas la RDC, pourquoi le gouvernement tarde toujours à s'approvisionner en armes pour récupérer le territoire comme Bounagana qui est encore sous l'occupation des rebelles?
Jean-Michel Dumont, vous avez suivi les préoccupations de cet auditeur qui voit un peu dans le même sens que celle soulevée par le professeur Njoli. Comment vous lui répondez?
Bon, le système qui est mis en place est un système qui a fait ses preuves ailleurs, donc ça a permis notamment, avec d'autres mesures, comme la présence d'une mission des Nations Unies chaque fois là-bas, de mettre un terme au conflit qui ont été des conflits épouvantables aussi, qui ont ensanglanté pendant des années le Libéria et le Sierra Leone, pour ne citer que ces deux-là. Ça a bien marché là-bas. Ici, c'est un pays qui a des frontières avec nos voisins, plus de 12 900 km, je crois, de frontières. Donc,
pourquoi le Rwanda n'est pas sanctionné alors qu'il est
chaque,
cité...
Chaque fois, les résolutions en question sont des résolutions adoptées au terme de discussions au Conseil de sécurité concernant la situation dans un pays donné, où généralement les Nations Unies interviennent. Donc ce n'est pas le cas du Rwanda. Mais, je vous rassure, il y a le groupe d'experts, et le groupe d'experts est justement là pour essayer d'équilibrer les choses. Et le groupe d'experts, comme il l'a fait récemment, dénonce quand il en a la preuve les interventions, notamment par des livraisons d'armes ou de munitions, qui peuvent être faites par des pays voisins en faveur de tel ou tel groupe armé. Et cela ne sert pas à rien. On ne prend peut-être pas de mesures d'embargo à l'égard de ces pays voisins, mais il y a, ces pays sont fournis eux-mêmes par d'autres pays, et des pressions diplomatiques sont exercées éventuellement et généralement à l'égard de ces pays.
Professeur Moïse a soulevé cette question de communication. Il n'y a pas une bonne communication autour de la résolution 2641 concernant la RDC, en vue de dissiper le malentendu et la confusion autour de ces sujets. Plus de communication pour dissiper tout malentendu.
Bon, moi je travaille pour les Nations Unies. Vous travaillez pour les Nations Unies à travers Radio Okapi. Je crois qu'on essaye effectivement de faire à notre niveau cette communication. Bon, c'est pas nous qui décidons de ce qui se passe à New York.
Professeur Jacques Joly, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kisangani. C'est l'auditeur Billy qui nous appelle. Hein.
Billy va se faire depuis la ville de Kisangani. La Tchoko. C'est mon regret, c'est que l'opinion publique congolaise soit complètement confuse sur la fameuse résolution dite de notification d'armes qui n'est pas accoupante avec l'embargo. Alors que les représentants de la RDC devraient en principe intéresser cette situation. Il faut avouer que cette confusion-là a forcément joué un rôle important dans le mental de la population qui a décidé de s'assurer au niveau en RDC.
Professeur Jacques Joly, vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne téléphonique. Est-ce que vous avez saisi l'idée de cet auditeur de Kisangani?
Bon, plus ou moins, j'ai saisi l'idée. Moi, je crois qu'il n'y a pas de confusion, et je l'ai dit. Nous sommes sur le plan de droit dans le chapitre 7 relatif aux sanctions et embargos. Les systèmes de notification, c'est une mesure, bon, on ne peut pas dire que c'est l'embargo dur qui frappait par exemple l'Irak et d'autres pays, mais c'est un régime d'embargo sous forme de notification préalable. Ça, c'était dit. Par ailleurs, je voudrais revenir sur les filières de ravitaillement de groupes armés. Prétendre que la République démocratique du Congo doit faire des efforts, je suis d'accord, pour éviter que les armes tombent auprès de groupes armés, oui, mais je crois que le collègue professeur a souligné que, et dans la résolution, il est bien noté qu'il y a un lien entre les ravitaillements de groupes armés, leur présence persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo, groupes armés nationaux et étrangers, et les souffrances qu'ils infligent à la population civile du pays, mais ces groupes armés sont ravitaillés par qui? Et ça a été dit, par la poursuite de l'exploitation du commerce illégal de ressources naturelles qui permettent à ces groupes d'opérer et de se ravitailler. C'est dit dans la résolution. Mais quelle est la conclusion qu'on tire? Rien du tout. Je veux plus loin. Lorsque le gouvernement des États-Unis sanctionne M. Alain Gates, qui a des comptoirs de diamants, mais il est clairement dit que ce monsieur qui se trouve en Ouganda, qui entretient une raffinerie d'or, et que cet or-là est livré par les groupes armés en compensation de armes que ce monsieur qui est installé légalement en Ouganda fournit à ces groupes armés. Donc, le sang des Ituriens, les armes qui frappent les Ituriens viennent de filières internationales qui sont installées dans le pays voisin avec des raffineries au Rwanda ou en Ouganda. Et même, et nous n'étions pas étonnés que les Émirats Arabes Unis puissent être contre la levée, parce que cet or-là est conduit aux Émirats Arabes Unis, il est raffiné. Donc, le filière de ravitaillement, des revitalisations des groupes armés, sont des filières entretenues par la plupart des pays voisins, et les groupes d'experts des Nations Unies l'ont suffisamment démontré. Mais pourquoi s'acharner sur la République démocratique du Congo avec des systèmes de notification? Le budget de l'Ouganda est financé à plus de 80% par la filière d'or. Et 16 tors-là vient d'où? D'Ituri. Donc, nous sommes d'accord que la République démocratique du Congo doit prendre des mesures, mais ce conflit est un conflit à dimension régionale. Le groupe armé tel que ADF, ce n'est pas un groupe armé congolais, ce sont les Ougandais. Les groupes armés qu'on appelle M23, ce sont des Rwandais. Et même si on va au sud Kivu, on voit les Red Tabara et autres qui se financent avec les armes des FRDC, ou bien achètent les armes avec la complicité de ceux qui exploitent illégalement les ressources congolaises, y compris de groupes internationaux privés, malheureusement, des pays voisins. Donc, si on veut avoir une approche pour, soi-disant, résoudre cette crise, et cet embargo dure depuis 14 ans. Et c'est pourquoi le représentant de la République démocratique du Congo a estimé que c'était une mesure obsolète qui a montré ses limites.
Professeur Augustin Mouessi, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient aussi de Kisangani.
Héritier Wamenga, j'appelle depuis Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. La communauté internationale est caractérisée au même moment par l'anarchie et l'ordre, c'est-à-dire ceux qui interdisent les achats et ventes d'armes sont tout de même ceux qui les fabriquent. Le système des Nations Unies a failli dans sa mission que nous rappelons le maintien de la paix et la sécurité mondiale en RDC, car malgré sa présence à travers la MONUSCO, mon pays n'a jamais retrouvé la paix. Je pense à mon humble avis que la RDC devrait travailler ensemble avec tous les autres pays africains qui sont majoritaires en l'Assemblée générale afin d'arracher le veto africain, soit encore de militer dans l'idée de supprimer les veto des Occidentaux qui se résument en ce jour à l'expression de puissance et de nuisance.
Professeur Mouessi.
Oui, en fait, l'auditeur, à mon avis, réside un peu sur la théorie du complot. Donc, lorsqu'on entend beaucoup de gens intervenir au sujet de cette question, ils évoquent l'idée d'après laquelle il y aurait un complot contre la République démocratique du Congo. Et parfois, cela ne permet pas effectivement d'être suffisamment objectif par rapport à la question. Mais en même temps, il évoque la question de la réforme du Conseil de sécurité, effectivement. Parce que, bon, par rapport au complot, bon, qu'il y ait complot ou pas contre la RDC, et que, effectivement, que l'ONU n'ait pas réussi à ramener la paix, mais je pense qu'à mon avis, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas encourager des efforts, et des efforts que la communauté internationale prendrait. Mais évidemment, on devra, c'est sur quoi on devra travailler, c'est que les efforts que la communauté internationale devait prendre pour essayer de ramener la paix dans certaines régions du monde, il serait souhaitable qu'elle soit accompagnée, effectivement, qu'elle soit globale, qu'elle tienne compte un peu de l'ensemble des paramètres. Pour le cas de la RDC, que le mouvement d'armes, ce n'est pas seulement interne, même s'il y a des responsabilités, évidemment, de qui sont copées, imputées à l'État congolais, qui n'arrive pas à assumer la sécurité, à contrôler ce territoire. Mais en même temps, il aurait été souhaitable que, à part ces mesures, que la communauté internationale fasse preuve de diplomatie, effectivement, ou mettre sur pied des cadres de concertation entre les États de la sous-région pour qu'effectivement les mesures qui concernent la RDC puissent avoir un impact assez souhaité. Mais en ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité, je crois que c'est un débat qui est d'actualité
Et on a vu effectivement que lorsqu'on a pris cette résolution, lorsqu'on a fait un débat, il y avait justement des fissures. Mais je crois que au-delà de ces fissures, effectivement, qui reflètent les divergences d'intérêts des différents membres du Conseil de sécurité, c'est aussi la question, en fait, de la refondation d'un État en République démocratique du Congo. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut effectivement s'interroger sur le processus ou le projet de la réforme du secteur de sécurité et même évaluer, je crois, à mon avis, objectivement, le plan national de contrôle et de gestion des armes légères. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de toutes ces politiques? Est-ce que la RDC a suffisamment fait des avancées? Certes, oui, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que, effectivement, la RDC se défragilise davantage? Je crois que ce sont des questions, à mon avis, qui valent la peine d'être effectivement abordées. Et je crois que ce sont des questions qui interpellent, en fait, les décideurs à tous les niveaux pour essayer, n'est-ce pas, de consacrer l'importance qu'il convient à la réforme du secteur de sécurité, à la réforme, effectivement, de l'État congolais, pour qu'effectivement, tout le temps, la RDC ne soit pas là en train de se plaindre ou condamner, effectivement, des mesures qui seraient prises contre justement, la violation, qui seraient prises en violation de sa souveraineté.
Merci, professeur Augustin Mouessi. On va considérer cela comme votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de notre émission. Jean-Michel Dumont, en une minute, qu'est-ce que la RDC devrait faire pour que ce régime de notification soit levé?
Alors là, bon, je crois qu'elle devrait davantage... Bon, je pense que le mieux pour la RDC serait de collaborer et de... effectivement, à travers la réforme du secteur de sécurité, mieux contrôler les flux d'armes qui pourraient éventuellement venir de certains agents de l'État. Mais la RDC fait des efforts. Il y a des officiers qui ont été condamnés cette année encore. Et c'est justement grâce au travail du groupe d'experts et à la notification des lots qui ont été fournis à la RDC que ces personnes ont pu être arrêtées. Donc ça sert à quelque chose. On ne peut pas dire que ça sert à rien. Et ce n'est pas fait contre la RDC. C'est ça que je veux dire. C'est fait pour la RDC.
Professeur Jacques Joly, qu'est-ce que vous vous proposez pour que ce que vous qualifiez d'embargo soit levé?
Mais je ne nierai pas les impératifs des efforts de refondation de l'État congolais, l'État qui doit assumer la plénitude de ses compétences sur le plan de contrôle de ses frontières. Je ne peux pas nier l'importance de la réforme du secteur de sécurité pour nous doter d'un outil capable de protéger notre population et ses biens. Et en ce qui concerne l'embargo sous forme de notification, il est important qu'il y ait une vision globale. On ne peut pas comprendre qu'un groupe armé comme l'M23 dispose des armes à visée nocturne infrarouge qui ont été livrées à un certain État et que l'ONU estime que ces groupes armés ont une puissance de feu d'un État et qu'on ne puisse prendre aucune sanction, aucune mesure pour savoir comment ces pays qui ont été ravitaillés par le Rwanda n'a pas pu être, ces pays n'ont pas été sanctionnés et qu'on sanctionne la République du Congo.
Merci professeur Jacques Joly. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci. Agui Maté, Dona Madimba, Martin Sebujangwe qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Paul, à Bob Landou qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.